Bonsoir Laura.
Bonsoir Nejma.
Est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices?
Oui, alors moi je m'appelle Laura, j'ai 31 ans. Je suis porteuse d'une mutation génétique sur le gène BRCA2. Et en octobre 2019, j'ai décidé de faire une double mastectomie.
Cette opération que tu as faite en 2019, c'était suite à un diagnostic de maladie ou pas du tout?
Non, en fait, j'ai une de mes sœurs qui est tombée malade en 2016. Et lors d'un contrôle avec son onco-généticienne, on a parlé qu'en fait, ça pouvait être lié à de la génétique. Donc, ça a été juste abordé très rapidement. Et donc, derrière, moi, j'ai pris rendez-vous avec le service d'oncogénétique de Lille à Oscar Lambré. Et j'ai demandé à avoir plus d'informations. Donc, on m'a envoyé un dossier à remplir. Et de là, j'ai commencé mes recherches en oncogénétique. Et donc, on a trouvé une mutation sur le gène chez ma sœur, puis ensuite chez moi. Et donc, c'est cette mutation qui a provoqué ma décision de me faire opérer en préventif. Donc, je n'ai pas déclenché la maladie quand je me suis fait opérer.
C'était justement pour qu'elle n'ait pas le temps d'arriver.
Exactement. C'était pour pouvoir contrer la maladie avant même d'avoir quelque chose.
Et donc, au cours des consultations préparatoires à cette opération, est-ce que tu as abordé avec ta chirurgienne ce qui pouvait se passer après pour toi, les différentes options au niveau de ton corps, de ta poitrine?
Oui, alors le premier rendez-vous, on a parlé des différentes techniques de reconstruction mammaire, que ce soit par lambeau, que ce soit par prothèse ou une reconstruction à plat. Voilà, on a évoqué toutes ces possibilités, ce que ça allait créer aussi au niveau du corps pour les sensations. Moi, j'ai beaucoup posé de questions là-dessus. On a parlé aussi d'allaitement éventuellement. Voilà, on est parti sur pas mal de sujets. Et c'est plus au second rendez-vous où je me suis positionnée sur un type de reconstruction en particulier.
Alors, est-ce que tu peux nous parler du choix que tu as fait?
Oui, alors moi, j'ai décidé de faire une reconstruction à plat, c'est-à-dire de rester plate, et de ne pas conserver les mamelons et les tétons à ma demande, puisque moi, cette reconstruction, j'avais le souhait de me faire tatouer, que j'ai toujours ce souhait d'ailleurs. Pour l'instant, je ne suis pas encore tatouée puisque c'est encore frais, que les cicatrices ne sont pas encore prêtes pour être tatouées, et donc de ne pas conserver les mamelons, les tétons, et de ne pas refaire de forme pour les seins.
Ce que tu expliques, parce que tu es très active sur Instagram, notamment, tu t'exprimes beaucoup pour en accompagner d'autres, et puis pour parler de ton chemin, tu dis à un moment qu'en gros, tu avais fait le deuil de ces seins, dont tu avais décidé de te séparer d'une certaine manière, voilà, pour ne pas laisser le temps à la maladie de s'installer. Pour toi, c'était soit les vrais, soit rien du tout, c'est ça?
C'est ça, en fait... Au début, je m'étais posé la question, reconstruction, quelle reconstruction? Et puis j'en ai parlé avec ma maman, j'en ai parlé avec des amis à moi, des amis très proches, et je me suis rendu compte en parlant que de toute façon, j'allais pas retrouver les mêmes seins. Peu importe ce que j'allais faire, ce serait plus les mêmes. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'en aurais encore besoin? J'ai pas le souhait de porter des enfants, donc les nourrir, la question se pose pas. Je savais qu'il y aurait plus de sensibilité aussi au toucher. Donc après, je me suis juste demandé, bah tiens, si c'est juste faire des formes, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je me sentirais bien avec un corps étranger dans mon corps à moi? Et ma réponse est très vite venue en me disant, bah non. Et finalement, ce qui me ressemble le plus, c'est le tatouage et de pouvoir choisir moi-même le dessin avec un tatoueur ou une tatoueuse, de pouvoir moi-même définir cette propre reconstruction et prendre les rênes un peu de tout ça.
Donc c'est ce que tu fais, cette opération, tu te fais reconstruire à plat. Comment ça se passe dans les semaines qui suivent?
Alors physiquement, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, voilà, le lendemain d'opération, quand j'ai vu les pansements, ça ne m'a pas du tout choquée, puisque je pense que j'étais tellement préparée que finalement ça s'est fait tout seul, ça s'est fait naturellement. Par contre, effectivement, l'étape qui a été très compliquée, qu'il a fallu surmonter, c'est au retrait des pansements, de pouvoir se regarder la première fois. Et la première douche, où on doit nettoyer, et donc là où on doit toucher, là ça a été très très dur. Et puis je me suis dit, non, tu craques 15 minutes, mais après c'est tout. Et les semaines qui ont suivi, ça s'est bien passé. Après, j'ai gardé mes drains très longtemps, j'ai gardé mes drains 10 jours. Donc ça, ça a été un peu plus compliqué à supporter. C'est plus finalement un mois et demi, deux mois après, où là, ça a été un peu dur. Donc, j'ai vraiment pris le temps de me relever. Et ce qui est important à dire, c'est qu'un suivi psychologique, en tout cas pour ma part, a été nécessaire. C'est important que quelqu'un d'extérieur puisse aussi nous aider à nous retrouver, parce que physiquement, c'est quand même impactant. Et ensuite, au mois de novembre, donc un mois et demi après à peu près, j'ai commencé de la kiné. Et j'ai fait de la kiné, des séances de kiné, jusque juin. Donc quand même pas mal de mois. Parce que j'avais des adhérences, en fait, au niveau des cicatrices. Ce qui faisait que je perdais de la mobilité, j'avais des douleurs. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais dès que j'étais fatiguée ou je conduisais beaucoup, voilà, j'avais de fortes douleurs. Donc la kiné, ça m'a vraiment permis de, voilà, d'apaiser un peu tout ça.
Mais pour autant, t'as fait du chemin. Et c'était quand la première fois où t'es sortie en t-shirt, bien, dans la rue? Et puis, il y a eu une étape importante, c'est quand t'as posté une photo de toi torse nu sur Instagram. Ça a été, je pense, une étape très importante pour toi.
En fait, cette photo, je ne devais pas du tout la publier. Elle n'était pas faite pour être publiée sur Instagram à l'origine. J'étais en contact avec une dessinatrice sur Instagram, avec le compte Aime Your Body, et qui dessine tout type de corps. Et puis, elle était venue vers moi en me demandant si j'étais d'accord pour témoigner pour sa page et qu'elle me dessine. Donc à la base, c'est la première photo que moi j'ai publiée, torse nu, elle était destinée à Marine et uniquement à Marine pour ce dessin. Et j'ai pris beaucoup de temps à la prendre en photo, j'ai pris beaucoup de temps à lui envoyer. Et finalement, quand je lui ai envoyé, tous les jours j'y pensais et je me disais, mais moi quand je cherchais des photos, j'en trouvais pas. Et pourquoi je serais pas cette personne en fait qui publie ces photos-là? Et un matin, c'était un matin de trop et j'ai juste appelé ma sœur. Une de mes sœurs qui a une ado qui me suit sur Instagram, parce que je voulais qu'elle soit prévenue. Je voulais qu'elle comprenne pourquoi moi je le faisais et pourquoi elle, à son âge, ne devait surtout pas faire ça. Et une fois qu'on lui en a parlé, j'ai décidé de publier la photo. Donc oui, ça a été un élément déclencheur. Et après, dans la rue, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. J'ai passé plusieurs mois avant de sortir en t-shirt ou en chemise. Parce que même si c'était mon choix et que ça l'est toujours d'ailleurs, le regard des autres n'est pas toujours évident à gérer. Donc j'ai mis du temps avant de me sentir à l'aise. La première fois où je suis sortie en t-shirt, j'étais partie faire des courses et la caissière mettait du temps et parlait avec moi, alors que moi j'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans ma voiture, qu'on ne me voit plus et que je parte. Parce que je me focalisais sur le regard des autres, alors qu'au final, on ne me regarde pas plus que n'importe qui. Je travaille en relations publiques. Les gens me croisent en chemise, en veste, en t-shirt. Je mets pas de prothèse externe. Et on me regarde pas plus que quelqu'un d'autre. Mais ça a pris du temps. Malgré mes photos, malgré les témoignages que je pouvais faire. Voilà, il y avait quand même un pas entre les deux. Sur Instagram, je suis pas en direct devant les gens. C'est une photo, c'est pas pareil. Dans la rue, par contre, je me confrontais directement au regard des autres. Donc après, c'est quelque chose... voilà, faut s'y préparer aussi, que peut-être ça prendra du temps avant de se sentir à l'aise.
Je voulais aborder avec toi la question de, sans faire de généralité évidemment, de l'accompagnement médical ou sur d'autres plans. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, pour une femme qui a déjà décidé ou se pose la question... qu'est-ce qui pourrait être amélioré selon toi dans les prises en charge, dans la manière qu'ont certains médecins d'aborder les choses, et peut-être certaines questions, comme celle de la sexualité, qui ne sont pas suffisamment abordées. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en fait pour vous accompagner?
Dans la prise en charge avant, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de rendez-vous à faire, que ce soit des échographies, des IRM, il y a des rendez-vous chirurgiens évidemment. Il y a un rendez-vous. Moi, pour ma part, j'ai eu un rendez-vous psy avec le psy du service qui détermine si oui ou non on est prêt à subir une opération, puisque eux utilisent le mot mutilation. alors c'est hyper violent, hein, en tout cas pour moi, à la réception, ça a été hyper violent, de dire mutilation quand c'est son propre choix et on se dit, mais attendez, moi je veux pas me mutiler, c'est pas le but, et c'est, enfin voilà, c'est le vocabulaire, parfois je pense qu'il est un peu à revoir parce que ils ont le leur, mais qui est pas forcément celui qui nous correspond à nous. Et ça, ça peut être assez... je sais que moi, je suis revenue là-dessus avec ma psy, parce que ça a été assez dur à recevoir. Et oui, je trouve qu'il manquerait des rendez-vous avec des sexologues, parce que c'est pas avec la chirurgienne qu'on parle de ça, c'est pas avec le psy non plus, c'est pas sa spécialité. Mais justement, quand on n'est pas dans le cadre d'un couple, et d'ailleurs, même qu'on est dans le cadre d'un couple, on a parfois besoin de parler de ça, de poser des questions, de pouvoir sentir à l'aise en le faisant. Je me serais pas vue poser des questions de sexualité avec ma chirurgienne, alors qu'en plus, elle est de ma génération, qu'elle a plus ou moins mon âge. Je me serais pas sentie à l'aise de lui poser des questions intimes. Donc, des rendez-vous avec des sexologues, ça pourrait être bien. Sans forcément que ce soit obligatoire, parce que je pense que certaines femmes, ça pourrait les gêner, mais qu'en tout cas, on laisse aux femmes la possibilité d'eux, et que, évidemment, ce soit remboursé au même titre que les autres rendez-vous que nous avons. Et dans la prise en charge après, que les médecins généralistes, que les médecins qui sont pas forcément dans des centres unicancer ou dans des unités cancérologie, soient aussi formés sur ces questions-là et sur l'accompagnement post-mastectomie. Parce que des retours avec des jugements de nos reconstructions, il y en a. J'en ai entendu beaucoup justement sur Instagram et j'ai vécu moi-même un rendez-vous qui a été hyper, hyper violent au niveau des mots, au niveau des remarques et que je suis ressortie de là très mal. Voilà, parce que je me suis sentie jugée, je me suis sentie pas comprise, pas acceptée, enfin, ça a été vraiment compliqué. Et moi qui ai un caractère fort, j'imagine pas ce que ça pourrait faire chez une femme pour qui c'est encore difficile à vivre. Donc je pense que ça, on peut travailler là-dessus avec le corps médical pour que ce type de rendez-vous n'ait plus lieu.
Et alors une question importante, comment tu te sens aujourd'hui dans ton nouveau corps ?
Eh ben, ça va de mieux en mieux. J'ai presque plus de douleurs, j'en ai encore, mais ça reste quand même plus rare qu'il y a quelques mois. Il y a quelques mois, je commençais un peu à avoir peur, pour être honnête, parce que j'avais très souvent des douleurs, donc la kiné m'a énormément aidée. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, et ma compagne actuelle, ça n'a pas du tout été un problème, cette reconstruction à plat. Je l'ai senti dès le départ, finalement ça s'est fait naturellement, elle m'a posé des questions, elle a fait ses recherches aussi de son côté parce qu'elle voulait pas me laisser raconter encore mon histoire alors que au début on n'a pas envie de ça avec l'autre, on a juste envie de se découvrir et de parler de légèreté. Bon bah forcément moi quand je rencontre quelqu'un je suis obligée de lui dire bon bah j'ai une petite particularité. C'est pas forcément évident et je pense qu'elle m'aide beaucoup aussi à me sentir plus libérée par rapport à tout ça. Voilà, l'acceptation, elle avait déjà été faite de mon côté, mais c'est vrai que cet aspect dans l'intime, finalement, n'était pas encore tout à fait bon. Donc, elle a vraiment redonné un peu de douceur à tout ça.
Eh ben, Laura, merci beaucoup pour ce témoignage très fort que tu livres. Merci à toi.
Merci à toi, Nejma.